Chapitre 3. Un éclat de rire. Café noir. Le plus large de tous les abîmes creusés par l'orgueil ou l'intérêt entre deux créatures humaines est certainement celui qui sépare le blanc du nègre aux colonies. La libre Amérique, tout en émancipant les Noirs, a rendu plus profond le fossé qui les excommunie. En aucun pays du monde, le bois d'ébène n'est aussi franchement maltraité que dans les États abolitionnistes de l'Union. Eh bien, l'Europe, habituée pourtant aux insolences hyper-aristocratiques de ses démocrates, poussa un jour un long cri d'indignation en lisant l'histoire de cette pauvre négresse jetée hors d'un omnibus à New York par la brutalité d'une demi-douzaine de philanthropes. Car ils s'expliquèrent, ces coquins de Yankees. Ils ont toujours le courage de leurs opinions. En lançant sur le macadam la misérable femme qui était enceinte et qui en tombant se blessa cruellement, ils établirent cette distinction américaine. Nous voulons que les Noirs soient libres, mais nous ne voulons pas qu'ils souillent l'air d'une voiture publique où sont les Blancs. C'est un joli peuple et pourri de logique. Chez nous, l'omnibus, fidèle aux promesses de son nom, admet tout le monde, même les dames qui ont des chiens. Son hospitalité ne s'arrête qu'aux limites tracées par la police, et certes, les conducteurs sont plutôt enclins à frauder le règlement qui défend les incongruités, car il y a eu des cas d'asphyxie. On laisse monter les poissonnières. Cette phrase prononcée par Lily sans la moindre vergogne, « Les conducteurs d'omnibus ne me laissent pas monter », était un aveu si terrible, une abdication si effrayante, que Justin eut des frissons sous la peau. Il regarda cette créature dont le vêtement, plus obscène que la nudité même, rentrait dans la catégorie des choses qui incommodent les voyageurs. Il eut envie de sauter par la portière. Elle souriait. Son sourire montrait un trésor de perles, et à travers les trous de ses haillons, son exquise beauté épandait ses parfums de pudeur fière qu'exhalent les chefs-d'œuvre de l'art et les chefs-d'œuvre de Dieu. C'était étrange, offensant, presque divin. Je sais lire, dit-elle tout à coup, en un mouvement d'enfantine vanité, et comme si elle l'eût deviné vaguement qu'il lui fallait plaider sa cause. Je sais chanter et coudre aussi. Est-ce que vous trouvez que je parle mal?
Vous parlez bien, très bien, murmura Justin au hasard.
Ah, fit-elle, il y a chez nous bien des gens qui sont venus de loin et de haut. Celle qui m'a appris à lire disait quelquefois, en voyant passer de belles dames dans des calèches, « Voici Berthe » ou « Voici Marie ». C'était des élèves à elle, du temps où elle tenait un grand pensionnat de demoiselles au faubourg Saint-Germain. Elle est morte de faim à force de tout boire. Alors j'ai donné chaque jour un sou à l'abbé, un vieil homme à demi-fou mais bien savant, et qui se frappe la poitrine en pleurant quand il est ivre. La tireuse de cartes m'a dit d'avoir seulement une chemise, une robe, un jupon, des bottines et des gants pour aller chez un directeur de théâtre qui me donnera des rôles à apprendre et autant d'argent que j'en voudrais.
« Vous parlez bien, » répéta Justin, qui songeait.
« Qu'est-ce que vous ferez de moi ? » demanda Lily brusquement. Au lieu de répondre, Justin demanda à son tour.
« C'est donc à cause de la tireuse de cartes que vous m'avez suivi ?»
« Mais oui, répliqua-t-elle, et je vous aimerais bien si vous faites ma fortune, allez !»
Justin éprouva une sorte de soulagement à entendre ces mots. Nous ne dirons pas qu'il était amoureux, ce serait trop et trop peu. Il agissait sous l'empire d'une sorte de folie lucide et qui avait conscience d'elle-même. Il fut content parce qu'il vit jour à secouer cette obsession.
« Vous avez envie d'être riche, dit-il. »
Oh, « pas pour moi, » répartit la fillette vivement, « pour ma petite. »«
Vous êtes mère, déjà ?» s'écria l'étudiant étonné.
Elle éclata de rire.
« Non, non, » fit-elle, « je n'ai pas encore ma petite, mais je me marierai pour la voir et pour l'adorer. »
Ce dernier mot fut prononcé avec une passion étrange, et le regard de Justin se baissa devant les rayons qui s'allumèrent dans les grands yeux noirs de Lily. Elle était miraculeusement belle. Il y eut un silence. Quand Justin reprit la parole, sa voix tremblait. « Lily, dit-il, je ne veux ni ne puis rien faire de vous. Je vous donnerai ce qu'il vous faut pour aller, comme vous le souhaitez, chez un directeur de théâtre. » Elle l'interrompit en frappant ses mains l'une contre l'autre. « Tout de suite, interrompit-elle. » Justin prit dans sa poche son porte-monnaie, qui contenait 3 billets de 100 francs. Il avait justement reçu sa pension la veille. À pareille aventure, il n'y avait qu'un dénouement possible, l'aumône. Justin répéta tout de suite et mit les 3 billets de 100 francs sur les genoux de Lily. Là-bas, dans la cité des chiffonniers, rien n'est mieux connu que les billets de banque. On n'en voit pas souvent, mais on en parle sans cesse. C'est le rêve et la poésie du métier, trouver un billet de banque. Le fiacre longeait au trot ce quai désert qui fait face à l'Hôtel Dieu. Lily était rouge comme une cerise. Son sein battait. Les cils recourbés de sa paupière ne cachaient pas toute la flamme de son regard. Justin donna le signal d'arrêter. Lily sauta sur le pavé et s'enfuit. Le cocher rit encore. C'était un observateur. Quant à notre étudiant, il resta tout simplement abasourdi, puis il se frotta les mains de bon cœur, puis encore il demanda « Pourquoi ai-je donné les 3 billets ?» C'était absurde, Paris ne contient pas 10 millionnaires capables d'agir ainsi. Justin soupira longuement, mais ce n'était point le remords de sa prodigalité qui lui arrachait ce profond soupir. Il avait devant les yeux une vision, Lily, transformée, par ce qui se peut acheter avec 3 billets de banque de 100 francs. 3 billets de 100 francs ne saurait vêtir une comtesse, ni même une bonne bourgeoise, mais 3 billets de 100 francs peuvent pailleter une saltimbanque ou couvrir très décemment une fillette. Ce diable de cocher vous avait encore un air goguenard en recevant le prix de sa course à la porte de Justin. Celui-ci monta à sa chambre qui lui sembla triste et vide. Il éprouvait au cœur cette meurtrissure qui reste après la rupture d'une vieille et profonde amitié. En tout, Lily et lui avaient été une demi-heure ensemble. Il se jeta sur son lit, tout songeur, et si là qu'une orgie à tout craint ne l'eût point fatigué davantage. Il n'essaya même pas d'en appeler au travail. Rogron eut tort, l'examen fut oublié. Cette île de jeunesse, le pays latin, est toute pleine de joyeuses et belles filles, quoiqu'on y trouve aussi les plus laides coquines de l'univers. Justin n'avait qu'à choisir parmi les plus folles et les plus jolies. Il essaya en vain d'évoquer les souriants visages de ses danseuses préférées. C'était l'étrange beauté de Lily, demi-nue, qui passait et repassait devant ses yeux. Il voyait sa robe pauvre et plus que fanée, drapant mais dévoilant l'idéale perfection d'un corps de nymphe antique. Il voyait ses longs yeux noirs, au regard hardi et candide, ce front presque céleste perdu sous la richesse désordonnée d'une splendide chevelure blonde. Elle s'était enfuie, la sauvage créature, sans dire merci, ni plus ni moins qu'un chien à qui on a jeté un os. Tout était bizarre et insensé dans cette aventure qui laissait après elle la sensation d'une chute, et, chose incroyable, parmi cette douleur morale où il y avait de la honte et une sorte de dégoût, la rêverie se dégageait, brillante et suave. Justin avait une mère, noble, bonne, bien-aimée, qui regardait de loin, avec miséricorde, ses fredaines d'enfants. Elle admettait, comme toutes les mères, le facile proverbe « il faut que jeunesse se passe ». Elle avait peur seulement de ces attaches demi-sérieuses qui peuvent peser sur tout un avenir. Jusqu'à ce moment, Justin, nouant et dénouant les chaînes fleuries, n'avait jamais été arrêté par l'idée de sa mère. Aujourd'hui, la pensée de sa mère vint le visiter. Pourquoi aujourd'hui plutôt qu'hier ? Pourquoi, à propos de la plus folle et de la plus passagère de toutes ces folies? Certes, l'aventure pouvait être ridicule au premier chef, mais du moins elle n'était pas dangereuse. Justin avait jeté à une mendiante une aumône un peu plus large que de raison, et c'était tout. Son budget seul devait en souffrir. Jamais il ne la reverrait. C'était à parier sans contraint, car elle n'avait même pas pris la peine de lui demander son nom. L'heure du déjeuner passa. Justin resta étendu sur son lit, comme un malade. Il était malade, en effet, il avait la fièvre, et chaque fois qu'il montait l'escalier, son cœur battait douloureusement. Il ne se demanda pas s'il aimait Mademoiselle Lily. Croyez bien que si son meilleur camarade, mis par hasard dans le secret de son équipée, l'eût accusé d'aimer Mademoiselle Lily, il aurait eu un soufflet de lancer. Justin avait la main leste. Non, chacun peut avoir ses mauvais jours, et nul ne répond d'un accès de fièvre. À l'heure du dîner, Justin s'habilla et sortit. Il avait fait un mâle effort sur lui-même et secoué son vertige comme un vaillant jeune homme qu'il était. Au moment où il mettait le pied dans la rue, il poussa un grand cri et faillit tomber à la renverse. Une jeune fille, vêtue de noir, avec une simplicité élégante et charmante, était debout devant lui. Elle souriait, montrant ses belles perles qui étaient derrière les lèvres roses de Lily. « Comment me trouvez-vous ainsi ? » demanda-t-elle. Justin la trouvait tout uniment adorable, mais il ne répondit point. Elle ajouta « Ah, j'avais bien entendu que vous donniez votre adresse au cocher, mais je ne savais pas votre nom. Comment vous demander au concierge ? Je vous attends ici depuis midi. »« 6 heures, » murmura Justin. « Offit-elle, je vous aurais attendu 6 jours, et bien plus encore, je ne vous avais pas dit merci. » Ce fut le lendemain matin que Justin de Vibray, le prince de la jeunesse des écoles, jeta bas son sceptre et déserta sa cour. Il est, non loin de Saint-Denis et tout près d'Enghien, un petit village charmant qui mire dans la Seine ses maisons fleuries. J'ai presque peur de l'indiquer aux Parisiens du dimanche, car jusqu'ici, les fondateurs de Guinguette l'avaient respecté. Il a nom Épinay. La dernière fois que je l'ai admiré, en passant dans la plaine de Gennevilliers, j'y ai vu 3 cabarets neufs et 2 cheminées à vapeur. Que Dieu le protège. En 1847, il était à 20 lieues d'Asnières. On les appelait Monsieur et Madame Justin, ou bien encore les nouveaux mariés. Ils étaient si beaux et si bons que tout le monde les aimait. Autour d'eux, il y avait comme un respect attendri. Avant l'année finie, on fit un baptême. Dans le jardin, plein de roses qui descendaient jusqu'au bord de l'eau, il y eut du matin au soir une grosse fille attelée à une voiture mignonne, roulant autour de la pelouse et dans laquelle souriait un cher enfant. Quand la voiture s'arrêtait, c'est que Lily venait au cri du petit ange qui appelait le sein de sa mère. Cela dura encore 3 mois, puis les feuilles tombèrent. Les rosiers étaient dépouillés de leurs fleurs. Justin devint triste. Un jour, Lily pleura. Justin voulut revenir à Paris. Ce n'était pas pour se séparer de Lily, au contraire. Lily eut des robes plus belles, des bijoux, des dentelles, des cachemires. Justin fit des dettes, beaucoup. Lily regrettait bien le large chapeau de paille qui l'abritait contre le bon soleil d'Épinay et toute sa gaie toilette de campagne qui la faisait si jolie à si peu de frais. Justin la voulait admirer. Paris la regarda pendant 3 mois. Justin devait 20 000 francs et Lily ne souriait plus guère qu'à l'enfant dans son berceau. Elle n'avait jamais reçu de lettre de Justin parce qu'ils étaient toujours ensemble. Une fois, on lui remit une lettre dont l'écriture lui serra le cœur. Elle était de Justin. Pourquoi Justin écrivait-il ? Justin disait dans sa lettre « Ma mère est venue me chercher. À bientôt, je ne pourrai pas vivre sans toi. » Elle eut peine à comprendre d'abord. Quand elle comprit, elle se coucha, malade, près du berceau. Justin écrivit souvent, d'abord, promettant de revenir bien vite, puis il écrivit moins fréquemment, puis il n'écrivit plus du tout. L'enfant avait 2 ans quand Lily se retira dans une pauvre chambre du quartier Mazas. Il y avait 15 mois qu'elle n'avait entendu parler de Justin. Depuis 1 an, elle vivait de son travail, vendant çà et là un bijou ou un objet de toilette. Justine, sa fille, ou petite reine, comme disaient les voisins, était toujours habillée comme l'enfant d'un prince. Nous retrouvons Lily au printemps de 1852. L'indigence était venue. Le costume de Lily en portait les marques, mais la pauvreté ne touchait pas encore à petite reine. C'était à cause de petite reine que les voisins de Lily, pris de ce souriant et gai respect qui est le bon côté du caractère parisien, l'appelaient la Gloriette. Il y avait dans ce surnom une pointe de moquerie et beaucoup de miséricorde pour l'excès de son amour maternel. La Gloriette et sa petite reine étaient populaires dans les deux côtés de la Seine. On les connaissait au Jardin des Plantes, où Lily menait jouer la fillette, quand l'ouvrage ne donnait pas. Malgré la différence de leur toilette, dont chacun s'étonnait, il n'y avait point de méprise possible. Quoique l'une fût l'élégance même, et que le costume de l'autre eût pu convenir à une bonne, c'était bien la mère et l'enfant. On les aimait comme cela. Revenons cependant à la baraque de Madame Canada, où nous avons laissé Lily et Petite Reine pour raconter leur histoire. Les bonnes gens du quartier Mazas en savaient à peu près aussi long que nous, sauf ce détail de la première jeunesse de Lily parmi les chiffonniers et le nom de Justin de Vibray. Au fond, elles ont toutes la même histoire. Petite Reine ne se possédait pas de joie. C'était la première fois qu'elle allait au spectacle, et le spectacle était superbe. Comme si Madame Canada eût voulu la remercier d'avoir montré le chemin au monde, elle enleva de son programme la lutte à main plate, l'exercice du canon, le travail de l'homme qui porte 300 livres entre ses dents gâtées, et généralement tout ce qui ne devait point amuser sa petite providence. Au contraire, elle fit jouer force marionnette, exhiba des figures de cire, et jongla elle-même avec de belles boules de cuivre, des poignards et des saladiers, car elle possédait une grande quantité de talent. Mais ce qui ravit la fillette au troisième ciel, ce fut la danse de Mademoiselle Freluche, qui fit une douzaine d'entrechats sur la corde raide, et, contre son habitude, acheva son travail sans tomber une seule fois. Petite Reine applaudit de ses deux mains mignonnes et bien gantées. Dans la baraque, tout le monde la regardait et l'admirait. Elle était une partie du spectacle. On la regardait aussi de la scène. Les deux yeux ronds du jeune Saladin étaient fixés sur elle avec une expression étrange. Vous n'avez pas oublié Saladin, le triangle. Il était un peu le maître chez Madame Canada, ce Saladin, bien que la bonne femme le détestât cordialement. Elle avait peur de lui. Dans son opinion, le blanc-bec, comme elle l'appelait, était capable de tout. Mais il avait la protection du beau Similor, son père, qu'il aimait et qu'il battait. Il avait surtout la protection d'Échalot, sa nourrice. Saladin dominait les autres par son intelligence réellement supérieure au milieu dans lequel il vivait, et par son caractère étrange, tantôt caressant, tantôt impérieux. Il savait onduler comme un serpent et sourire mieux qu'une femme. Quand il était en colère, le regard de ses yeux ronds coupait, froid et tranchant comme une lame d'acier. C'était déjà un petit homme par ses vices, mais il gardait les faiblesses d'un enfant. Il fut jaloux du succès de Mademoiselle Freluche, ou plutôt jaloux de l'impression qu'elle avait produite sur la fillette, à laquelle il accordait une attention extraordinaire. Il voulut éblouir la fillette à son tour. Malgré Madame Canada, qui avait écarté son travail du programme pour ne point effrayer Petite Reine, mais aussi pour finir plus vite, car l'heure du dîner approchait et la soupe aux choux était à point. Saladin, dépouillé de sa jaquette et vêtu d'un juste au corps pailleté, s'élança sur le devant de la scène en brandissant un sabre. Il était un peu grêle, mais très bien fait de sa personne, et la blancheur de marbre de son visage ressortait énergiquement sous les mèches bouclées de ses cheveux bruns. Freluche le trouvait beau comme un dieu. Il arriva, sûr de lui-même, et planta la pointe de son sabre dans son gosier avec un aplomb vainqueur. Mais Petite Reine poussa un cri perçant et se couvrit le visage en disant « Ah, celui-là, elle est, je ne veux pas le voir, mère, emmène-moi !» Saladin s'arrêta. Ce ne fut pas un regard d'enfant qu'il jeta sur la fillette. « Hein, raté, l'effet de la valeur !» cria un gamin. Les deux commères protectrices du garçon boucher commandèrent « Entonne ton coupe-chou, bonhomme, et pas peur !»«
Il est connu, fit observer un militaire, que les sabres et bancals pour l'avalage sont en coutre-bourg. Saladin brandit son glaive pour montrer qu'il était en vrai fer. La pâleur de sa joue devenait livide.
« Viens-t'en, mère, viens-t'en !» supplia Petite Reine qui pleurait. « Celui-là me fait peur !»
Le sombre personnage qu'Échalot avait désigné ainsi un père de France étranger dit avec un geste imposant « Assez !»«
As-tu fini, Barabbas ?» miaula le gamin.
« Aval !» crièrent les paysans.
« N'avale pas !» ordonna Madame Canada du fond de la coulisse.
« Il avalera, il n'avalera pas. La Marseillaise est ta sœur. Orgeat, limonade, bière !»
Au milieu du tumulte, et pendant que Petite Reine épouvantée cachait son front dans le sein de sa mère, un large éclat de rire monta de la salle et envahit la scène. Spectateurs et saltimbanques se tordaient les côtes à contempler Saladin, immobile, vert de honte et de rage. Cela dura longtemps. Quand Saladin releva ses paupières, ses yeux saignaient comme ceux des oiseaux de proie. Il regarda le public d'abord, puis Petite Reine s'enfuit, poursuivi jusqu'au fond de la coulisse par ce grand éclat de rire qui devait bouleverser trois destinées.
« Tu veux toujours faire à ta tête, blanc-bec !» dit Madame Canada à Saladin, qui rentrait dans la coulisse, les sourcils froncés et la tête basse.
L'avalage du sabre, ajouta Similor sentencieusement, est une mécanique qui plaisait à nos ancêtres. Ça passe aux troubadours débaudés, comme la guitare et la comédie.
« Toi, Amédée !»
s'écria le miséricordieux Échalot, « tu ne sauras jamais dire un mot agréable à l'enfant. Il est fautif d'avoir ostiné Madame Canada, qui est ici l'image de l'autorité. Mais pour du talent, il n'y a pas beaucoup d'artistes en foire qu'on soit comblé davantage par la Providence, ajouté à l'éducation. »
Saladin regarda du même œil rond, effronté et hautement dédaigneux ceux qui l'attaquaient et celui qui le défendait. Il remit sa jaquette, alluma sa pipe et sortit sans répondre un seul mot. Une fois dehors, il fit le tour de la baraque jusqu'à ce qu'il eût trouvé une large fente entre les planches. Il mit l'œil à cette fente et regarda Petite Reine. La pluie, qui commençait à tomber, ne le chassa point.
« Ah ! Fit-il au bout de plusieurs minutes, je suis laid. La drôle de petite marionnette, je lui fais peur. La voilà qui rit, maintenant qu'elle ne me voit plus. « C'est bon. »
La représentation, cependant, s'achevait. En conscience, il y en avait largement pour deux sous. Cologne, la clarinette, parut en géant, Atlas le bossu dansa la polichinelle, et Madame Canada firent la mère gigogne. La séance se termina par les prestiges hydrauliques qui étaient des ombres chinoises. Quand Lily emmena Petite Reine enchantée, la pluie tombait à torrents. Le père de France étranger allait peut-être enfin proposer ses services, mais il fut prévenu.
« Vous faut-il une citadine, ma belle dame ?» demanda sur la plateforme même un jeune gars en jaquette qui toucha son bonnet grec élégamment.
Lily jeta un regard désolé sur la toilette de Petite Reine qui dit « Ah, par exemple, celui-là est bien gentil. » Sur un geste de Lily, le jeune garçon sauta en bas des marches. C'était l'intrigant Saladin. Deux minutes après, il revenait avec une voiture. Lily le remercia et monta dans la voiture. Petite Reine lui sourit par la portière.
« Vous allez ?» demanda Saladin.
« Rue Lacuée 5, place Mazas. »
Saladin répéta au cocher. « Rue Lacuée 5, place Mazas. » Il rentra tout pensif dans la baraque où Madame Canada disposait déjà, au milieu de la scène, une vieille porte sur deux tréteaux. C'était la table où fut servie la soupe aux choux. Chacun s'assit autour de la table, à savoir la directrice et son état-major sur des chaises, les autres comme ils purent, qui par terre, qui sur le tambour, qui sur quatre bouteilles supportant une ardoise. Chacun eut une bonne assiette de soupe. La soupe formait le repas réglementaire fourni par le gouvernement. Après la soupe, l'administration ne devait rien, mais tout pensionnaire gardait le droit imprescriptible de se procurer à lui-même n'importe quelle douceur à l'aide de ses économies. Ainsi, le bossu grignota 2 sous d'arlequin qu'il était allé acheter de grand matin à pied, rue de Sèvres, où les arlequins sont bons et pas chers. Cologne dévora 1 demi-pain de munitions, beurré de graisse à friture, et Mademoiselle Freluche mangea une vaste brioche en mordant un oignon cru. Il y a toujours de l'élégance dans l'appétit des dames. L'état-major, composé de Madame Canada, d'Échalot, de Similor et de Saladin, qui passait pour l'héritier présomptif de l'établissement, avait à partager le fond de la marmite, savoir un petit morceau de lard, 4 queues de mouton, 1 saucisse et des choux. Et Similor, nature brillante mais égoïste, avait du vin dans un cruchon de Vichy. Il n'en offrit à personne. Échalot, au contraire, muni d'une bouteille de cidre à 4 sous, en versa à Madame Canada et puis à Saladin, qui ne le remercia pas. Le théâtre français et hydraulique était un établissement considérable. Outre la baraque en planches vermoulues, qui laissait passer fidèlement le vent et la pluie, il y avait des bancs qui ne tenaient plus, le tambour, la caisse, la clarinette, le trombone, les ombres chinoises et autres meubles industriels, et puis les sabres de Saladin et la corde de Mademoiselle Freluche. Il y avait en outre une énorme voiture, sorte de maison roulante, chargée de faire voyager tout cela, et un cheval mourant qui traînait la voiture. Il se nommait Sapajou. Encore ne parlons-nous point du tableau, troué comme une écumoire, qui portait l'illustre signature de cœur d'acier. Madame Canada faisait volontiers ce raisonnement. Je ne tirerais pas 100 écus du tout, mais s'il me fallait l'acheter, je n'en serais pas quitte pour 3 000 francs. Les ruines ont ainsi leur valeur symbolique. La pluie mettait un terme aux représentations pour ce soir. Quand le repas fut achevé, Madame Canada dit « Campo, chacun a ses habitudes, pas vrai? Rentrez seulement de bonne heure, rapport à ce que demain on commence le déménagement au petit jour. »« Où va-t-on aller ?» demanda Cologne. « Si quelqu'un veut te tirer les vers du nez à ce sujet, » répliqua fièrement la directrice, « tu répondras que tu l'ignores, imbécile. » Les pensionnaires de Madame Canada se dispersèrent aussitôt et allèrent chacun à ses habitudes. Le vice est hors de prix à Paris. Ils sont plus pauvres que Job et pourtant ils ont leur vice. Comprenez-vous cela? Ils boivent, ils jouent, ils mènent des intrigues d'amour. Comment? Cologne, oui, certes, et Atlas aussi. Poquet, dit Atlas, le bossu, le trombone, qui vous donnerait une palette de son sang pour 20 sous. Poquet entretient une dame. Quelque part, tout au fond de l'inconnu, il est des trous enfumés, pleins de moite chaleur et bourrés d'asphyxie, où vous tomberiez morte au bout de 10 minutes, madame, mais où l'on s'amuse autant et mieux que chez vous. Il y a là des élégances relatives, des raffinements qui font peur, des galanteries, des comédies. On vit, on pêche, on aime, on trahit, comme chez votre voisine. C'est un monde, un vrai monde. Et tenez, l'amante du trombone bossu lance sous la table des coups de pied à écorcher les grandes jambes de Cologne, qui est idiot, mais géant. Vous voyez bien que c'est du monde. Similor eut rougi de descendre jusque-là. Il gagnait régulièrement la poule à un petit estaminet de la barrière et y faisait des dettes. Personne ne savait où allait Saladin. Mademoiselle Freluche se promenait comme Diogène, mais sans lanterne. Aujourd'hui, Mademoiselle Freluche et Saladin restèrent à la baraque. Saladin était tout songeur. Mademoiselle Freluche n'avait sommeil. Madame Canada et son échalot, personnes rangées, se retirèrent dans leurs appartements. Ils couchaient dans la grande voiture, ainsi que Similor et Saladin. Leur chambre, large et longue comme 2 cercueils à peu près, pouvait se clore. Ils s'enfermèrent. Ils vous avaient là-dedans des airs heureux. C'étaient de bonnes gens, et ils s'aimaient. « Amandine, dit échalot, nous avons à compter et à causer. » Si nous nous lâchions le café noir en qualité d'extra, et sans en prendre l'habitude. Gros gourmand, répondit Madame Canada, qui avait déjà l'eau à la bouche, va pour le café noir. C'est un art éminemment parisien que de préparer le café. On a pour cela des ustensiles ingénieux et charmants, des bijoux qui laissent voir l'eau en ébullition au moment où elle saisit les parfums de la poudre favorite. J'ai vu des mains savantes et des mains charmantes toucher à la cafetière. Je vais vous dire comment Madame Canada faisait son café. Pendant qu'Échalot comptait ses sous et des pièces blanches dans un boursicot de cuir et traçait des chiffres sur un papier gras, Amandine ouvrit sa malle et y prit une feuille de chou contenant un bon tas de ce mortier compact qu'on appelle du marc et que les garçons de café revendent aux viveurs peu favorisés par la fortune. Ce marc, soit dit en passant, a déjà servi deux fois. Aussi, Madame Canada en prit-elle à pleine main, comme si elle l'eût voulu gâcher du plâtre. Elle le mit dans un poêlon avec un oignon brûlé, une pincée de poivre et une gousse d'ail. Sous le poêlon, elle alluma du feu dans un réchaud qui boitait, puis, ayant versé deux verres d'eau dans ce ragoût, elle se mit à remuer le tout avec une cuillère de bois qui avait écumé la soupe. Les Spartiates n'auraient certes pas voulu de se brouer, mais aussitôt que la chaleur du feu en dégagea les premiers effluves, les narines des chalots se dilatèrent énergiquement. Il cessa de manier ses gros sous et dit avec émotion « Ah, ça n'a pas cette odeur-là dans les établissements publics. Tout est meilleur et moins cher dans le sein de la famille. Dieu m'avait créé pour les plaisirs purs et l'agrément de chez soi, adouci par une honnête aisance. Ah, que de belles années perdues, mon Amandine! Ah, si on s'était rencontrés plus tôt, avec la sympathie qu'on nourrit mutuellement l'un pour l'autre, on aurait semé, dès sa jeunesse, une situation assurée, pour plus tard, à cela récolter dans la maturité de l'âge. » Madame Canada laissa tomber dans le poêlon un bout de cervelas et un bon petit morceau de gruyère qu'elle avait retrouvé sous sa main. Un vaste soupir souleva sa poitrine. « J'en ai prodigué de ressources avec feu Canada, » murmura-t-elle. « Toutes les voluptés n'étaient pas assez pour nous. Égaux par le physique, on y mélangeait l'inconstance réciproque, à droite, à gauche. Lui avec les bourgeoises les plus huppées de l'aristocratie et du commerce, moi avec des militaires gradés et des chefs d'établissement, mais sans jamais manquer à l'honneur. » Ah, c'est l'existence de l'artiste, emporté par ce tourbillon déréglé, de ne jamais penser qu'à sa bouche, bal, fête et café-concert. Rien qu'en tabac, on aurait nourri un enfant. Et des raisons, quand on revenait à la baraque, un peu lancés tous deux, et des coups aussi, hein, que feu Canada n'avait pas honte de frapper une pauvre femme comme moi dans sa faiblesse. Échalot la regardait avec admiration. « J'ai fréquenté le salon de la noblesse, dit-il, avec 6 000 ors, du temps des habits noirs où nous avons trempé, quoique toujours délicat, mais pour avoir trouvé une comtesse qui s'exprime avec ta facilité, Amandine, jamais. Ah, si ce Canada t'avait affronté devant moi !»« Oh !» fit la directrice, qui eut un pacifique sourire. « Pas besoin, merci. À ces époques-là, je faisais le travail des poids. » Canada était bel homme, mais il n'a pas duré comme moi. Que trouves-tu à la balance ? 63 francs 80 centimes pour les 21 jours, répondit Échalot. C'est maigre. La bouillie de marc était chaude. Madame Canada la versa dans un mouchoir à carreaux qui lui servait de coiffure quand elle n'avait pas sa perruque d'étoupe. « Le temps n'est plus à faire de l'or dans la capitale, » dit-elle. « Faut s'y montrer pour ne pas perdre son rang, mais c'est la province qui sustente les artistes. Tords-moi ça, Bibi. En plus que des particuliers, comme ton 6 000 or et ton saladin, c'est la ruine d'une entreprise honnête. » Échalot prit un des côtés du mouchoir sans répondre. On tordit. Quelque chose de visqueux et de noir tomba dans une grande tasse ébréchée. « Cela vous eût fait fuir à l'autre bout du monde, mais Échalot et sa compagne se penchaient tous deux en avant pour ne rien perdre de la fumée odorante qui montait. Leurs visages, souriants et avides, se rencontrèrent. Ils échangèrent un baiser qui n'avait rien de sensuel, sinon à l'endroit du café. « Ah, parole, il embaume !» dit Échalot. « Le poêlon gardait un petit goût de chou.
Ah, c'est là le truc, interrompit Madame Canada avec triomphe. Il faut toujours quelque chose pour donner du bouquet. Mets le couvert, Bibi.
Échalot se hâta d'obéir.
Le boursicot et le livre de compte furent serrés et remplacés par deux petites écuelles de terre brune, un carafon d'eau-de-vie et un cornet de papier gris contenant de la cassonade. Le carafon, hélas, était presque vide. Le contenu de la tasse ébréchée remplit les petites écuelles jusqu'au bord.
« C'est le sec qui est court, » fit Échalot en regardant le carafon.
Madame Canada eut un sourire.
« On va curer le puits, » dit-elle, « c'est le dernier jour. Voyons voir ce qu'il y a au fond des bouteilles. »
5 bouteilles étaient couchées sous le lit, reliques de bombances passées. Une de cassis, une de parfait amour, une d'élixir des braves, une de crème de Vénus, une de bière. On passa de l'eau dans toutes, on rinça, on décanta dans le carafon, et le niveau de la goutte monta sensiblement.
Philémon Échalot et Baucis Canada s'assirent alors en face l'un de l'autre, le cœur content, la conscience légère, et firent deux parts de la cassonade terreuse qui descendit en bouillonnant dans les écuelles. Le café, savouré à petites gorgées, fut proclamé délicieux. Quand les tasses furent à moitié vides, on y versa les rinçures qui, à leur tour, méritèrent un éloge sincère et attendri.
La pluie faisait rage au dehors. Le poète Lucrèce l'a dit en beaux vers, bien dogmatiquement égoïste, qu'il est doux quand la grande mer est agitée par la tempête, qu'il est doux d'être au port et de suivre le danger des malheureux ballottés par la tourmente.
Ah, le philosophe!
Philémon et Baucis écoutaient les tapages de la verse et traduisaient à leur manière le distique du poète bourgeois.
« Ah, nous sommes bien clos, » disait la Canada.
« Bien couverts, » ajouta Échalot.
« Tant pis pour les gens qui se mouillent. »
Ensemble, ils imprimèrent à leur tasse ce mouvement de rotation qui permet de boire la dernière goutte.
« Amandine, » soupira Échalot, « j'ai une idée qui me trotte dans la tête.
»« Moi de même, » répliqua vivement Madame Canada.
« Et depuis quand, la tienne ?»«
Depuis ce soir. »«
La mienne aussi. »
La boîte qui servait de chambre au jeune Saladin était contiguë à l'armoire habitée par Philémon et Baucis. Saladin était brûlé à son estaminet dont le maître lui avait présenté la note. Il passait forcément dans son trou cette dernière soirée et n'avait pas sommeil. L'odeur du Gloria pénétrant à travers les fentes de la cloison lui inspira quelques jalouses pensées qu'on trouverait aussi dans Lucrèce. Puis il se mit à écouter, pour tuer le temps. Voici ce qu'il entendit.
« Mon idée, reprenait Échalot, c'est que Saladin était un amour quand il avait 5 ans. Il faisait recette. »«
Et Freluche a le même âge, » s'écria Madame Canada. « Quel chérubin ! Elle valait 100 sous par jour, à la moyenne. »«
Nous partons pour une tournée de province. »«
En province, les enfants font toujours de l'argent. »
Quand ils sont jolis,
comme la minette de ce soir, eh ?
Ce fut Madame Canada qui dit cela. Échalot lui prit les deux mains et les serra en murmurant
« Tu es supérieur à ton sexe par la capacité, Amandine. »«
Je donnerai 50 francs, s'écria la directrice, à qui m'apporterait un ange pareil. »
Saladin se redressa de l'autre côté de la cloison.
« Bah, » fit Échalot, « c'est des rêves. Personne ne nous apportera cela. »«
Il y a quelquefois des mers dénaturées, » fit Amandine.
« Allons-nous coucher, la chandelle s'use. »
Saladin passait ses mains maigres dans les grandes masses de ses cheveux. Lui aussi avait son idée. Il s'assit sur le pied de son lit.
« Bonne nuit, Bibi, » dit la Canada.
« On pourrait aller jusqu'à 100 francs, » reprit Échalot.
« Dors bien, mon Amandine. »«
100 francs, » répéta Saladin, « c'est une affaire. »«
Ah, je suis laid, perruche !»
Il réfléchit, et un sourire méchant vint à sa lèvre, pendant qu'il ajoutait « Gagner 100 francs et se venger, ça serait drôle. »